Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Nieubourg.
L'intelligence artificielle a-t-elle une âme? Non, on est à peu près tous d'accord là-dessus. L'intelligence artificielle a-t-elle une personnalité juridique? Non plus, en tout cas pas pour le moment. L'intelligence artificielle peut-elle avoir le statut d'inventeur d'un brevet? L'Office européen des brevets vient de dire très clairement non. On en parle avec Clément Monnet, avocat au cabinet Norton Rose Fulbright. Clément Monnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors, expliquez-nous un petit peu. On a posé donc la question, quelqu'un qui, vous allez nous expliquer, a posé la question à l'Office européen des brevets pour dire, est-ce qu'un système d'intelligence artificielle peut déposer un brevet? C'est ça qui s'est passé?
C'est exactement ça, en tout cas un peu près ça. Donc, mais peut-être avant d'entrer plus dans les détails de l'affaire, je pense qu'il serait utile de préciser qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour qu'on soit tous plus ou moins sur la même longueur d'onde. Donc, si on veut simplifier un peu les choses, on peut préciser que l'intelligence artificielle pourrait consister en une science dont le but serait de faire par une machine des tâches qui sont habituellement accomplies par une intelligence, ou en tout cas par une intelligence humaine. Donc là, en l'hypothèse, il s'agissait donc dans notre affaire, hein, de deux inventions qui avaient été créées non pas par une personne humaine, mais par un système d'intelligence artificielle, lequel était dénommé Dabus. Donc c'était le nom que l'inventeur de cette intelligence artificielle avait donné à sa technologie. Et cette technologie-là avait créé deux inventions qui étaient d'une part, c'est pas très intéressant, enfin c'est un peu très technique, mais un récipient pour une boisson et un dispositif de lumière vacillante.
Donc, des objets, ce n'était pas une invention purement immatérielle. L'intelligence artificielle a créé un objet.
Voilà, en tout cas, ils avaient eu une idée et ils avaient eu pour ce récipient, ils avaient réussi à élaborer quelque chose qui correspondait en tout cas aux critères d'une invention brevetable, c'est-à-dire nouvelle, susceptible d'application industrielle et qui ne soit pas évidente pour l'homme du métier.
D'accord. Donc, alors, j'imagine que là, quelqu'un a donc voulu déposer un brevet. C'est pas non plus l'intelligence artificielle toute seule qui a pris son téléphone et qui a appelé l'Office européen des brevets. C'est celui qui avait programmé l'intelligence artificielle.
Exactement. Donc, c'est celui qui était à l'origine de l'outil d'intelligence artificielle, monsieur. Son nom m'échappe, Stephen. Attendez, je vais le retrouver. Stephen Thaler, voilà. Qui lui, donc. Ce monsieur Stephen Thaler, qui était un ingénieur, hein, un inventeur, avait donc créé ce système d'intelligence artificielle, ce système d'algorithme, si on veut simplifier les choses, et avait voulu déposer donc deux brevets en Europe et aux États-Unis. Et lorsqu'il faut savoir, c'est lorsque l'on dépose un brevet, il y a certes le nom du déposant, c'est-à-dire celui qui va détenir le brevet, mais lorsqu'on dépose un brevet, dans le formulaire, on mentionne également le nom de l'inventeur. Et donc, Monsieur Taylor, dans sa grande bonté, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'il voulait tester un peu la réaction des offices, a dit, mais moi, je ne suis pas l'inventeur, ce n'est pas moi qui est à l'origine de cette invention. C'est ma technologie d'intelligence artificielle, en l'occurrence, donc il avait décidé de dénommer, et en tout cas de mettre Dabus, donc sa technologie, comme étant inventeur des deux inventions en cause.
Il n'avait pas été jusqu'à considérer que l'intelligence artificielle était le propriétaire. Il ne cédait pas non plus ses droits.
Ah bah, non, quand même pas. Non. C'était juste simplement pour la qualité d'inventeur. Au niveau de la propriété des brevets, in fine, elle lui serait quand même revenue parce que c'est le déposant, en tout cas en France et s'agissant des législations européennes, c'est le déposant qui est propriétaire des brevets et qui donc après jouit d'un monopole d'exploitation sur l'invention et sur les brevets. Donc là, en l'occurrence, il avait déposé les brevets en son nom propre, mais il avait désigné comme inventeur sa technologie. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de l'examen de la demande de brevet par l'EEB, donc qui est l'Office européen des brevets, qui s'occupe de vérifier si tout est en ordre et si les conditions sont brevetables, ben, la qualification juridique de Dabus a rapidement soulevé un débat, parce qu'il faut savoir que même si cette condition n'est pas exprimée par les textes, la pratique veut que l'inventeur soit en général une personne physique. Et donc, il y a eu, je vous passe les détails de toute la procédure, hein, mais il y a eu quelques débats, et notamment une procédure orale en 2019, en novembre 2019, c'est mémoire infidèle, et les demandes de brevets ont été rejetées au motif que l'exigence juridique, en tout cas le fait que la personne qui était désignée inventeur était une personne, enfin pas une personne, mais un système d'intelligence artificielle et non pas une personne physique, serait contraire aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, qui selon l'EEB doit se limiter en tout cas à une personne physique. Et donc le 27 janvier 2020, l'EEB donc, a publié sa décision dans laquelle elle expliquait ses motifs et elle expliquait pourquoi, selon elle, une intelligence artificielle ne pouvait pas être inventeur d'un brevet, qu'il fallait absolument que ça soit une personne physique.
Et alors, pour que je comprenne bien d'ailleurs, donc vous dites une personne physique, ça peut être plusieurs personnes physiques, mais ça peut pas être un groupement de personnes qui auraient en fait une personnalité morale.
Non. Pour un inventeur, en tout cas, à l'aube de l'interprétation des textes actuels, il peut y avoir des co-inventeurs, hein, ça c'est pas une difficulté, mais en revanche, à l'heure actuelle, l'inventeur est forcément, en tout cas pour le droit français, une personne physique.
D'accord. Alors, il y a un autre point d'ailleurs que vous évoquez dans le commentaire de la décision. Vous dites que la demande doit contenir la désignation de l'inventeur et comporter les noms, les prénoms et l'adresse complète de ce dernier. Donc, c'est pas juste parce que l'intelligence artificielle n'avait pas d'adresse qu'on a rejeté la demande. Ce serait un peu archaïque quand même.
Alors oui, ça serait un peu archaïque, mais j'ai envie de vous dire en même temps, oui et non. Parce que plutôt qu'archaïque, je pense que la position, moi, de l'OEB, a consisté en fait une interprétation plus classique des textes en fait. Ce qu'il faut avoir en tête et garder à l'esprit, c'est que les textes régissant les conditions d'octroi d'un brevet, et donc les conditions de brevetabilité, ont été élaborés à une époque où, bien évidemment, on ne pouvait pas concevoir qu'une invention pourrait être le fruit, ou en tout cas pourrait faire intervenir un processus de création qui ne serait pas issu d'un humain, d'une personne physique. Donc, c'est pour ça que on va dire que l'EEB a eu une interprétation un peu classique des textes. Et puis en plus, ce qu'il faut également avoir un peu à l'esprit, pourquoi l'EEB a insisté sur le fait qu'il fallait avoir un être humain derrière un inventeur, c'est parce que l'invention donne aussi également, en quelque sorte, un droit moral sur l'invention. Ça veut dire qu'on a un droit au nom, on est désigné comme étant être l'inventeur d'une telle invention. Et ça, bien évidemment, pour avoir un droit moral, il faut derrière une personne physique. Cependant, cela dit, moi je considère que c'est une interprétation classique, on ne peut pas vraiment à ce stade-là leur jeter la pierre, mais on peut penser quand même que l'EEB aurait pu avoir une interprétation peut-être un peu plus novatrice, et peut-être que cette interprétation donc, aurait peut-être pu être bienvenue, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une véritable révolution technologique, et que l'intelligence artificielle, si au début c'était simplement un outil à la disposition, ou en tout cas pour aider un inventeur. Maintenant, quand on parle de machine learning, d'apprentissage automatique, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un algorithme peut se nourrir tout seul de données, apprendre tout seul des choses et vraiment créer des choses en dehors même de sa programmation initiale et donc créer quelque chose et sans aucune intervention humaine. Et dans ce cas-là, si vraiment il n'y a eu aucune intervention humaine, si vraiment l'invention résulte du processus de création de l'algorithme lui-même par des espèces de neurones artificiels, de cerveaux un peu électroniques, pourquoi, entre guillemets, ne pas faire correspondre le droit à la réalité factuelle? Dans le sens, pourquoi vouloir désigner absolument une personne physique comme inventeur si cela ne correspond pas à la réalité factuelle? Donc c'est pour ça que je dis que potentiellement c'est pas archaïque, c'est du classique, ça aurait pu être novateur, mais pour que ça soit novateur il aurait fallu une évolution du droit, parce que actuellement c'est vrai que quand on lit les textes, on peut sous-entendre quand même la nécessité d'un être humain derrière tout ça.
Mais j'imagine que si l'Office européen des brevets avait été dans cette direction-là, les conséquences, c'est un effet de domino. Derrière, les conséquences pourraient être extrêmement importantes en termes de droits patrimoniaux. Il y a des tas de litiges qui pourraient être générés, etc. En fait, il n'a sans doute pas voulu aller dans cette direction-là et faire tomber les dominos.
Exactement. Alors ça, c'est, je vous l'accorde. Mais après, on aurait pu penser potentiellement à, je sais pas, peut-être à la création d'une personnalité électronique, on peut dire, sans que ce soit une personnalité juridique à part entière. Il y a eu des débats là-dessus. Je sais qu'en 2016, de mémoire, un rapport du Parlement européen prônait la création d'une personnalité juridique pour les robots. Donc ça pourrait être intéressant, parce qu'un algorithme, qu'est-ce qu'un robot si ce n'est un logiciel, en fait. Donc et un logiciel, à la base d'un logiciel, il y a très régulièrement un algorithme. Donc on pourrait se demander si la création d'une personnalité électronique pourrait être possible. Il est clair que il y a beaucoup de détracteurs à cette idée de personnalité électronique ou de personnalité juridique pour les robots, notamment parce que il est vrai que cela peut poser potentiellement des problèmes éthiques. Bien évidemment, derrière, quel robot pourrait se voir reconnaître une personnalité électronique et quel robot pourrait se l'avoir refusé, sous quels critères, est-ce qu'il faudrait mettre en place un mécanisme de certification. Par ailleurs, je sais que pour avoir lu quelques papiers là-dessus, les détracteurs à la notion de personnalité électronique nous disent que à ce moment-là, si on reconnaît la personnalité juridique à un robot, il faudrait leur reconnaître un droit à la dignité, un droit à la citoyenneté. Donc, pour eux, ça serait un affrontement direct aux droits de l'homme. Pour moi, franchement, on n'en est pas là. Il ne faut pas non plus être si alarmiste. Je pense qu'en revanche, donc si certaines critiques, bien évidemment, sont entendables, ce n'est pas le problème. Bien évidemment, on ne veut pas créer l'égal d'une personnalité juridique entre humains et robots. Je pense qu'on aurait quand même pu trouver une voie médiane, une alternative médiale, par le biais d'un système de droit générique, comme le droit en voit souvent. Et on aurait pu créer, je pense, une personnalité ou en tout cas un régime spécifique pour les inventions créées par les logiciels d'intelligence artificielle. La seule question qui restera à trancher derrière tout ça, selon moi en tout cas, et ce sera quelque chose d'assez intéressant, c'est quid si l'invention pose après un problème en termes de responsabilité, comme vous l'évoquiez, qui devrait être responsable? Est-ce que ça sera ce monsieur Taylor donc, qui a créé l'algorithme? Est-ce que ça serait le propriétaire de la machine, parce qu'une machine d'intelligence artificielle ou logiciel peut être achetée par quelqu'un? Donc est-ce que c'est celui qui a simplement entré les données dans la machine pour avoir, tiens, créez-moi une invention pour un nouveau système pour boire du café ou pour faire du café? Est-ce que c'est la personne qui a sollicité cette invention, ou est-ce que c'est peut-être potentiellement même le licencié de cette technologie? Donc tout n'est pas réglé, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on pourrait peut-être une voie plus novatrice. Simplement, c'est pas le cas, parce que comme on l'a vu ensemble, B considère toujours qu'il faut une personne physique derrière, et surtout très récemment, de mémoire, le 27 avril, donc c'est quand même assez récent, l'Office américain des brevets a statué exactement dans le même sens. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un terrain de discussion, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas.
En matière de droits liés à des contenu des textes, des traductions, je pensais en vous écoutant à un logiciel de traduction automatique par ordinateur. Quel est l'état aujourd'hui du droit? J'ai un texte en français sur lequel j'ai des droits puisque j'en suis l'auteur. Il passe dans un logiciel. La traduction est soumise à quel droit?
Alors là, c'est une très bonne question, j'ai envie de vous dire. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu encore de jurisprudence passer à ce stade-là, mais il faudrait revoir, selon moi, donc si vous pensez peut-être à DeepL,
Exactement.
Il faudrait revoir les conditions d'utilisation du site internet DeepL, qui peut-être lui prévoit de façon contractuelle le statut des traductions offertes par ce biais-là.
Ce serait assez logique, parce que si je confie à un traducteur la traduction de mon livre, je conserve des droits, mais le traducteur a aussi des droits sur sa traduction. Donc, si on a une machine, ce serait assez logique de lui donner également des droits. Ça revient un peu à la discussion que l'on avait et à ce que vous suggériez sur la création d'une personnalité électronique. C'est finalement bien ça, la solution.
Exactement. C'est la même chose également. Il y a des entreprises qui créent de la musique aussi. Il y a des startups là-dessus où on voudrait où des annonceurs demandent à la startup de leur créer un jingle ou une musique pour sonoriser leur annonce commerciale. Quid si elles sont créées pas du tout par des humains mais par un logiciel? Est-ce que ce droit appartient à la start-up ou est-ce que ce droit appartient à l'annonceur? Toutes les questions contractuelles et de négociation.
À titre de conclusion, une question très générale. Oui. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est normal que le droit soit toujours en retard par rapport à la technologie? Est-ce qu'il faut vivre avec et est-ce que c'est normal?
En tout cas, après quelques années en tant qu'avocat, cela ne me choque plus et je trouve ça pas normal, mais en tout cas, c'est logique. Il faut voir que nos textes, notre code civil sont plus que centenaires. Alors, il faut que nos lois évoluent avec le temps. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que nos juridictions sachent s'adapter et peut-être soient des fois, donc, comme aurait pu l'être l'EFB, un peu plus novatrice et n'aient pas peur de se borner à la stricte interprétation textuelle ou en tout cas linéaire des textes et n'aient pas peur des fois d'adapter le droit et en tout cas leurs solutions aux nouvelles technologies.
Parfait, Clément Monet, merci beaucoup. Donc, on n'en est pas encore au stade où on verra, alors peut-être un film dans lequel on aurait des protagonistes, sans doute des avocats qui auraient à discuter de ce genre de sujet. Ça ferait certainement un bon sujet dans une série comme Suits ou quelque chose comme ça. En tout cas, Clément Monet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Norton Rose Fulbright. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet passionnant. À très bientôt sur Décidéo.
On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.